libre échange. Libre-échange aujourd'hui entre Jean-Pierre Vernon et Daniel Kunt. Alors, présenter Jean-Pierre Vernon est une tâche à la fois simple et complexe. Il suffirait de dire Jean-Pierre Vernon, compagnon de la Libération. Il s'est engagé dès 1940 dans la Résistance. Votre nom de combat, c'était le colonel Berthier,
À la fin, j'ai entendu beaucoup.
Donc, compagnon de la Libération, professeur honoraire au Collège de France, le plus grand helléniste d'aujourd'hui, mais il faudrait pouvoir expliquer en quoi sa démarche a renouvelé en profondeur notre regard sur la Grèce ancienne, sur son univers mental et social, en fécondant la recherche purement historique grâce à l'approche, à l'apport de l'anthropologie, de la philosophie, de la psychologie historique, de l'histoire comparée des religions et des mythes, de la linguistique, à travers son enseignement et à travers les livres depuis les origines de la pensée grecque, c'était en 62, jusqu'à l'univers, les dieux et les hommes paru en 99. Alors, vous n'aviez pas l'air d'accord, Jean-Pierre Vernon, quand je disais le plus grand helléniste d'aujourd'hui, mais ça, je pense que c'est votre modestie.
Pas du tout, non. C'est le fait qu'il n'y a pas de moyen de mesurer ça et que, il y a le bon helléniste et puis voilà.
Et Daniel Kunt est astrophysicien, il est directeur de recherche au CNRS et vous travaillez à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et depuis des années, vous vous employez à travers des initiatives comme par exemple la Nuit des Étoiles, mais il y a eu d'autres initiatives, à faire partager votre passion et votre savoir du ciel. Alors voici une rencontre qui a priori devait être placée sous une bonne étoile. Et pour commencer, je demanderai à Daniel Kunt et à Jean-Pierre Vernon, avant même de parler de l'origine du monde, je voudrais demander à Daniel Kunt de nous raconter sa découverte du ciel et à Jean-Pierre Vernon de nous raconter sa découverte de la Grèce. Voilà. Daniel Kunt.
Oui, alors en ce qui me concerne, ma découverte du ciel, elle s'est faite par étapes. C'est vrai que j'ai eu des rencontres très jeunes avec des amis qui m'ont passé des bouquins. Et bon, ensuite j'ai eu la chance d'observer la planète Mars alors qu'elle était très très proche de nous et je me suis rendu compte qu'elle était colorée, qu'il y avait une couleur rouge. C'était la première fois que je me rendais compte qu'il y avait des couleurs dans le ciel. Ensuite, j'ai fait mes études, les ai terminées et décidé de m'intéresser à l'astronomie, à l'astrophysique. Et là, j'ai eu une chance formidable, celle d'aller au Chili, faire ma coopération militaire et découvrir d'un seul coup un ciel extraordinaire, un pays qui était aussi en voie de, enfin, dans des périodes extrêmement difficiles, puisque c'était en 73, un moment terrible pour le Chili, c'était le coup d'État de Pinochet contre Allende. J'étais dans cette situation extraordinaire, dans les Andes, à regarder le ciel. C'était une palpitation tout à fait magique, c'est une beauté sublime, et tout en ayant à mes pieds un pays qui se déchirait. Et c'était cette double situation qui m'a à la fois donné envie quand même de continuer de percer un petit peu les secrets du cosmos, tout en étant en regardant aussi à côté de moi pour essayer à la fois de faire partager mes secrets et ce que je découvrais et être quand même à l'écoute du monde.
Jean-Pierre Vernon, votre découverte de la Grèce.
C'est progressif aussi parce qu'il n'y a pas une Grèce, il y a le pays, les gens, la mer, les îles, la littérature, la philosophie. J'étais pour la première fois en Grèce en 35. Avec mon frère et des amis, on a pied, on l'a parcouru et c'est là que j'ai eu le coup de foudre, beaucoup moins pour ses ruines que pour sa population, ses paysans. On était à pied, il y avait pas de touristes presque, pas de route, et on était accueillis dans les villages avec une ouverture. C'est ça qui m'a touché tout de suite. Ils nous montraient, ils étaient réunis quelquefois, une fois. Ils ont sonné les cloches en nous voyant arriver. Et ils étaient réunis sur la place du village, où il y avait les bistrots, les hommes, aussi un peu les femmes, et ils se disputaient pour savoir qui aurait le privilège d'avoir un de ces quatre gaillards, qui était là avec le sac au dos, la petite culotte, chez eux. C'est-à-dire que il me montrait une dimension de cette civilisation paysanne avec des racines très anciennes, le sentiment que l'étranger qu'on reçoit, l'honneur et le bénéfice est pour vous. Et dans un monde où ce genre d'attitude non seulement n'est plus de mise, mais où il y a une hostilité, il y a une xénophobie qui à cette époque-là déjà me choquait profondément, je comprenais qu'est-ce que ça signifiait, ça, une civilisation où celui qui arrive est accueilli comme si c'était le bon Dieu qui l'envoyait, et que c'est votre honneur de le recevoir. C'est lui qui vous fait un don en venant. Et après la guerre, après beaucoup de choses, là, les hasards ont joué. J'ai eu un maître exceptionnel, Gernet, qui est arrivé en 48 et dont j'ai suivi tous les séminaires, et qui m'a révélé une autre Grèce que celle que j'avais un peu appris à l'école. Mais moi, je ne suis pas helléniste. Au point de vue universitaire, je suis philosophe. J'ai fait une grille de philo. J'ai été prof de philo, mais je n'ai jamais enseigné le grec.
Alors, ce que je voudrais vous demander, c'est comment vous avez envisagé, l'un et l'autre, comment vous envisagez, dans votre travail, dans votre recherche, ce rôle de passeur qui est le vôtre, c'est-à-dire la transmission, pas seulement d'un savoir, mais d'un savoir, passionné. Parce que quand on pense à la Grèce, quand on pense au ciel, on a l'impression que ce sont des choses assez éloignées de nos soucis ou de nos plaisirs quotidiens. Et pourtant, quand on vous lit, quand on vous écoute, on a le sentiment que on passerait à côté de quelque chose de fondamental, à ne jamais regarder du côté du ciel ou à ne jamais regarder du côté des Grecs. Alors, qu'est-ce que c'est cette chose fondamentale que l'un et l'autre vous avez ressenti au contact, pour vous, Daniel Kunt, de cette observation du ciel, et pour vous, dans ce contact avec le pays, avec les gens, et puis avec l'histoire de la Grèce. Voilà, qu'est-ce que c'est cette chose fondamentale que vous avez envie de transmettre, Jean-Pierre Vernant?
Écoutez, dans un bouquin qui s'appelle, je crois, L'homme grec, je raconte, j'essaye de montrer comment le ciel, les astres, les Grecs ne les voyaient pas comme nous. Je raconte à peu près ceci, c'est en 35, je suis encore un très jeune homme, et je me balade dans une petite barcasse de pêche, c'est la nuit, je suis sur le Don, et c'est la pleine lune. Et je regarde cette pleine lune et je vois son reflet qui sur la flotte. Et tout d'un coup, là, dans ce bateau, je la regarde et je me dis, c'est Séléné, le nom de la lune. C'est Séléné que je vois. C'est-à-dire que je sentais en elle une présence à la fois lumineuse, mais obscure dans la nuit, c'est pas le soleil, c'est pas la lumière, c'est autre chose, une présence féminine aussi. Elle était du féminin pour les Grecs, et je la voyais moi aussi au féminin, une présence à la fois lointaine et très proche. Et j'ajoutais, dans ce livre, que le jour, beaucoup plus tard, devant mon poste de télévision, j'ai aperçu l'image de ces Américains qui sautaient lourdement sur la Lune, qui était devenue un morceau de l'habitat, si je peux dire, et qui était là. J'ai eu le sentiment à la fois qu'il y avait quelque chose qui était irrémédiablement perdu et qu'il faudrait que j'essaye d'une certaine façon de le restituer, que c'était fini, que nos yeux n'ont pas changé, mais que le regard qu'on porte sur le ciel et sur la lune ne peut plus être le même avec cette merveilleuse découverte. On ne peut plus voir, pour un grec, l'idée qu'on va débarquer sur la lune, sauf dans la littérature des gens qui s'amusent. Puis c'est impensable, c'est un autre monde. Et à partir du moment où on y va, eh ben c'est comme quand on découvre l'Amérique, elle fait partie de notre continent, et avant, c'était un monde de nulle part.
Daniel Kunt.
Oui, c'est très complet comme réponse. C'est vrai qu'en ce qui me concerne, j'ai le sentiment que la science permet de restituer une certaine liberté. C'est pour cela que j'ai envie de la faire partager. Alors, ce que vous dites sur la Lune, c'est tout à fait exact. Mais moi, je dirais par exemple que un des merveilleux cadeaux que la science a apporté ces dernières décennies, ça a été l'image de la Terre, par exemple. Ma grand-mère, elle nous a cru sur parole quand on lui a dit que la Terre était ronde. Et aujourd'hui, nous sommes les premières générations qui pouvons voir que c'est vrai. On a une image de la Terre, on la voit ronde. Autrefois, c'était pas vrai. On le croyait. Et finalement, la science a ceci de fascinant à mon sens, c'est que ça permet toujours de se poser la question du sens. Qu'est-ce que le sens? Nos sens, et comment interpréter ce que nos sens nous disent, et comment justement se démarquer de tout ce qui est, pas tout, mais enfin en partie de ce que dit la tradition, ce que disent les religions, et pour essayer d'en faire ce peu, d'avoir une attitude de relativement libre. Alors ça, c'est disons le point de départ. Et puis ensuite, s'agissant du ciel, bon, le ciel, on n'a pas le choix. Quand les gens savent que je suis astronome, eh bien, je suis acculé à répondre aux questions qu'on me pose. Pourquoi? Parce que l'astronomie, c'est quand même le ciel, c'est au carrefour de plein de choses. De la religion, on va en parler. De la poésie, vous venez d'en parler en évoquant le lac. Et puis la religion. Donc la religion, la science, la religion, la science et la poésie. Donc c'est au carrefour de tous ces éléments. De sorte que on me pose toujours plein de questions. C'est évident en ce qui concerne mon ciel à moi et le ciel que je partage avec les autres, qui est pas tout à fait le même, parce que j'ai après tout deux ciels. Il y a le ciel que je vois, que je pourrais voir avec vous quand je sors en pleine nuit et que je contemple les étoiles, et puis il y a le ciel sur lequel je travaille qui est complètement différent, parce que pour cela il nécessite des concepts, il nécessite des télescopes, et c'est un ciel qui pour moi-même d'ailleurs est invisible à l'œil nu.
Voilà, vous allez nous parler d'ailleurs de ce ciel que vous voyez au bout de votre télescope. Mais alors, puisque justement on va parler à la fois de la science, de la poésie et de la philosophie autour de l'origine du monde. Alors, comment le monde a-t-il commencé pour les Grecs? Comment les Grecs se représentent l'origine du monde?
Et de façon diverse. Il y a un grand texte qui s'appelle la Théogonie d'Hésiode, la naissance des dieux, et qui raconte, comme il dit lui-même, ce qui fut d'abord à l'origine, l'exarchès, en partant du point de départ. Alors, c'est une des façons de l'expliquer. Même, c'est un mythe, c'est ce que nous appelons les mythes. Et même sur le plan des mythes, il y a d'autres conceptions. J'en dirai peut-être un mot. Et puis alors, il y a un moment où ce sont plus des poètes inspirés, mais des gens qu'on appelle, que les Grecs eux-mêmes appellent les physiciens, qui font une enquête sur la nature. Fucis, c'est la nature comme force vitale, mais c'est ce qu'on a sous le nez aussi, comme Thalès ou des gens de cet ordre, qui proposeront, comme Anaximandre, Anaxagore, proposeront des conceptions un peu différentes. Hésiode, qu'est-ce que c'est? D'où ça part? Ça pose des problèmes d'origine. D'abord, ce qui fut, ce qui a eu lieu, c'est le mot grec est chaos, que le chaos, le chaos, mais le mot grec, par ses rapports avec le verbe kaino, qui veut dire avaler, ouvrir la bouche, béer, c'est une espèce de vide, de béance caractérisée par le fait que cette béance est obscure, qu'elle est un espace de vertige. À d'autres moments, il dira que si on jette quelque chose dans l'équivalent du chaos, ça n'arrive jamais en bas. Il n'y a pas de bas, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de droite ni de gauche. Tout est confondu, tout est indistinct, et c'est cette indistinction primordiale qui est le point de départ, d'abord. Ensuite, Epeita, ensuite, Fu, Geneto, Gaïa. Alors Gaïa, c'est un nom commun qui veut dire la Terre, c'est en même temps le nom d'une divinité. Exactement comme la Lune est à la fois ce que je vois sous mon, pas sous mon nez, mais au-dessus de mon nez, et qu'elle est en même temps une divinité. Bon, pour les Grecs, c'est comme ça que ça marche. Alors Gaïa, elle apparaît à un moment donné. Elle apparaît au sein de cette béance. Et qu'est-ce qu'elle représente, Gaïa? Elle représente, d'une certaine façon, le contraire de la béance. Pourquoi? Parce qu'elle est solide. Parce que pour les Grecs, elle est plate, elle est un plancher. Il va y avoir un plancher du monde. Elle est solide, elle est plate, et elle est en même temps, pour les Grecs, elle est la terre-mère, d'une certaine façon. Elle est la mer, elle est ce qui produit tout. Elle va donc produire des montagnes en hauteur, des arbres, et dans le fond, elle va s'enraciner dans les profondeurs de cette béance, dans l'obscurité de cette béance, par beaucoup de racines qu'on ne verra pas. Elle est donc une sorte de plancher qui est soutenu en bas et qui s'élève vers le haut. Et puis alors, à partir de là, il va se passer beaucoup de choses. Gaïa va enfanter le ciel, Ouranos, qui d'abord est collé sur elle et qui est vu comme une sorte de principe masculin. Gaïa, au départ, la production que fait Gaïa, c'est important du point de vue de la pensée. Le modèle de la production, c'est pas l'union sexuelle. Gaïa est féminin, Chaos n'est pas masculin, il est neutre. Et quand Gaïa enfante Ouranos, le ciel, et Pontos, l'eau fluide, toutes les eaux fluides, en elle, les eaux souterraines, etc., et la mer, elle les enfante sans s'unir à quiconque. C'est-à-dire, ce qui est une unité primordiale possède à l'intérieur d'elle-même toute une série de ressources ou d'enfants qu'elle va produire, en quelque sorte, sans qu'intervienne l'union sexuelle. C'est seulement après, quand il y aura déjà un certain règlement, une réglementation, qu'il y aura des générations successives et qu'il y aura des enfantements du mâle et de la femelle. Ouranos et Gaïa, pendant cette période, sont collés l'un sur l'autre. Il n'y a pas d'espace entre eux. Ouranos, c'est une espèce de puissance virile qui ne pense qu'à une chose, faire l'amour à Gaïa, être dans Gaïa. Il s'épanche en Gaïa de façon continuelle. Il est étendu sur elle, et elle l'a produit exactement de la même taille qu'elle. Ça veut dire qu'en quelques points qu'on se trouve de la Terre, quand on lève le nez comme notre ami, on voit le ciel. Il n'y a pas d'endroit où il y a la Terre, il n'y aurait pas le ciel, ou l'inverse, c'est comme ça. Finalement, comme on le sait bien, les enfants de Gaïa s'amoncellent dans son corps, dans son ventre, et ils peuvent pas sortir, parce que Ouranos est sur elle.
C'est pression.
Il n'y a pas d'espace dans le monde, il n'y a pas de temps. Il y a Gaïa et Ouranos, mais il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de succession des générations. Alors, donc, elle s'adresse à Cronos, un de ses fils, à l'intérieur d'elle-même, et Cronos accepte de châtier son père, qui ne les laisse pas venir à l'être. Elle lui donne une faucille, une harpène, un truc courbe, extrêmement dur, et pendant que le brave Ouranos s'avance ou se rapproche pour s'épancher en Gaïa, il lui coupe le sexe. Il jette la verge dans les flots, et il jette les gouttes du sang tombent sur la terre. Et de là vont naître deux principes qui sont fondamentaux. Sur la terre, les gouttes du sang d'Ouranos vont donner naissance à toutes les puissances d'hostilité, de violence guerrière, de vengeance. On n'oublie pas. Les Irini, par exemple, vont naître là. Ces divinités qui poursuivent toute espèce d'atteinte qui a été faite par un parent à son parent. Donc, puissance de guerre, de discorde. Iris, la violence et la discorde. Et en même temps, du sexe qui est tombé sur la mer, du sperme mêlé à l'écume de la mer, naît Aphrodite, la déesse qui est la déesse de l'union. On va donc avoir un monde où sont nés en quelque sorte du même coup de serpe, à la fois l'espace, Ouranos est parti dans le haut du monde, il s'y fixe, il bouge plus, il ne descend plus sur Gaïa, le temps, non seulement il y a Gaïa et Uranos, mais il y a des enfants, et ces enfants en auront d'autres, le temps est débloqué. Mais par-dessus le marché, tout ce monde sera un monde où la lutte et l'accord, la haine et l'amour vont se combiner pour constituer un univers. Voilà, en gros.
Daniel Kuntz, qu'est-ce que cela évoque pour un scientifique aujourd'hui, un astronome comme vous, ce récit
Moi, je le trouve absolument magnifique. Je me suis régalé en lisant votre ouvrage « L'univers, les dieux, les hommes », c'est ça. Parce que vraiment, j'ai eu le sentiment d'écouter l'histoire comme vous venez de le faire. Et alors, ça me renvoie à tout ce travail qui a été fait depuis plus de 2000 ans maintenant et qui conduit à une vision du ciel dont je me demande si elle est vraiment très différente par certains aspects, puisque je ne vais pas refaire toute l'histoire de l'astronomie, mais il y a eu un moment clé qui était la révolution copernicienne, qui a opéré un premier décentrement, puisque c'est le moment où la Terre est détrônée de sa position centrale dans l'univers, c'est au contraire laisse place au Soleil. Et ensuite, il y aura d'autres décentrements. Puisque à la fin du 19e, eh bien, on découvrira que le Soleil lui-même, c'est une petite étoile située dans un univers bien plus immense qui est la galaxie. Donc les astronomes vont commencer à percevoir la notion d'infini de l'espace, ce qui contraste vraiment réellement à la perception que les anciens pouvaient avoir, qui était un monde clos. Le monde chrétien est un monde clos. Il y a la voûte céleste qui est vraiment perçue comme une voûte de très peu d'épaisseur. Même Kepler pensait que la voûte céleste était extrêmement fine. Donc on a ce premier décentrement qui opère quand même déjà un sentiment. Enfin, je sais pas, ça change énormément de choses en ce qui concerne nos conceptions du monde. Et ensuite, au XXe siècle, eh bien, ce sera donc l'étoile Soleil est devenue une étoile parmi d'autres. Et ensuite, on découvre l'expansion, ce que l'on a appelé l'expansion de l'univers. C'est-à-dire que notre galaxie, notre Voie lactée n'est qu'une galaxie parmi des milliards d'autres. Et tout cela dans un univers qui n'est pas statique, qui n'est pas immuable, comme le pensaient les Grecs et ensuite même les Lumières le pensaient ainsi, même Einstein le pensait comme ça. Donc là, vraiment, c'est une révolution récente, conceptuelle, récente, qui date des années 20, 1920, où on perçoit maintenant l'univers comme quelque chose qui change, qui n'est pas immuable, mais au contraire, quelque chose change tout le temps, des étoiles apparaissent, des étoiles disparaissent, et on est devant un univers qui est en perpétuelle expansion. Donc se pose la question de l'origine, puisqu'il y a expansion, il y a mouvement, il y a donc histoire, et donc il y a une histoire restituée. Donc vous voyez que à partir de ce moment-là, eh bien le scientifique aussi invoque la possibilité pour la science de se substituer à ce qui est la tradition donc religieuse ou la théologie, qui est de raconter l'histoire de l'univers. Et c'est pour ça que je me demande si d'une certaine façon on n'est pas en train de raconter la même histoire autrement. Et d'une certaine façon, on a pu dire du Big Bang, puisque c'est de cela dont il s'agit. C'est la théorie qui semble la mieux partagée par tous les scientifiques aujourd'hui. Est-ce que le Big Bang n'est pas, d'une certaine façon, un mythe moderne qu'on a restitué?
Voilà, justement. Alors, quel pourrait être les points de rapprochement entre la théorie du Big Bang, qui fait remonter donc cette origine du monde à 15 milliards d'années? À peu près
15 milliards d'années.
15 milliards d'années. Et cette idée du chaos, tel qu'Hésiode dans la Théogonie, nous le montre. Enfin, est-ce qu'il pourrait y avoir des...
Ben écoutez, c'est très difficile finalement de voir s'il y a eu une intuition fabuleuse de nos ancêtres, ou si c'est au contraire quelque chose qui sont des analogies, mais simplement des analogies. Je sais pas si on... C'est un vrai problème. Par exemple, savoir si nous sommes... sommes-nous finalement coincés, d'une certaine façon, et ramenés toujours à la même représentation du monde et de l'espace, tout simplement parce que les mythes, c'est notre dernier recours pour expliquer l'homme. Ça, c'est une des questions qu'on pourrait se poser. Peut-être qu'on revient toujours à cette espèce de discours. Même la science y revient. Alors... Ce qui me frappe, c'est vrai qu'on se pose la question, qu'y avait-il avant? Bon, alors, les scientifiques évacuent la question en disant cette question ne se pose pas, parce que la notion de temps n'est plus un concept qui est utile pour les physiciens. Donc, nous nous arrêtons et nous ne pouvons pas aller au-delà de cet avant. Ceci étant, là, c'est vrai que ce qui est frappant, c'est que les premiers instants de l'univers sont décrits comme étant une soupe cosmique, comme étant un moment où matière et lumière sont tout à fait indiscernables, où les particules n'ont pas encore émergé. Donc, on voit bien que peu à peu, la notion de structure apparaît. Il y a effectivement ce sentiment que l'univers petit à petit accouche de quelque chose. Et nous sommes issus d'une longue histoire qui dure 15 milliards d'années, qui est longue ou pas longue. Je ne sais pas si 15 milliards d'années, finalement, c'est très long. On aurait pu imaginer que l'univers ait 1000 milliards d'années. Bon, il se trouve qu'on trouve 15 milliards d'années. Mais c'est vrai, moi je suis frappé par le fait qu'il y a des puissances primordiales, peut-être, qui sont à l'œuvre. Peut-être né du vide, d'ailleurs c'est une des théories possibles, théorie moderne dite de l'inflation. Donc la gravité, la matière, la lumière sont à l'œuvre, mais il n'y a rien de discernable. C'est vraiment une véritable soupe cosmique. On dit aussi que l'univers est complètement opaque. Petit à petit, l'expansion fait en sorte que les températures décroissent, les particules peu à peu s'agrègent, les premières galaxies apparaissent, au sein de ces galaxies les premières étoiles, et au bout d'un certain temps, les planètes et nous-mêmes. Donc la notion de chaos, effectivement, d'une certaine façon, se retrouve finalement son écho dans ce que finalement l'histoire que vous racontez, l'histoire des mythes, des anciens, des mythes archaïques.
Alors, dans le récit que vous venez de nous faire, Jean-Pierre Vernon, à partir donc de la théogonie d'Hésiode, on voit que d'abord Hésiode plante le décor. C'est-à-dire, ces forces, ce chaos, la scène est là, et puis les acteurs arrivent. Et ces acteurs sont d'abord les dieux, et puis les hommes. C'est-à-dire que c'est comme si le ciel était une surface de projection où allaient apparaître ces silhouettes, enfin plus que des silhouettes, des dieux en conflit entre eux, en lutte pour établir un ordre. Et puis les hommes. Alors, cette surface de projection qu'est le ciel, c'est une manière, c'est vous d'ailleurs qui l'avez étudié, de projeter l'ordre social, l'ordre politique de la cité.
Il me semble que quand on regarde ces mythes, il y a comme toujours, plusieurs plans, plusieurs niveaux. Il y a d'abord un grand thème qui est le thème qu'est-ce qui est d'abord, le premier, d'où ça vient tout ça. Donc, que la science se rencontre à sa façon. Et là, je suis d'accord, c'est-à-dire que il y a une solution qui est de dire au début le rien est tout d'une certaine façon, c'est-à-dire il n'y a rien de discernable, et par conséquent, tout peut en sortir, tout est contenu dans ce dans quoi on ne voit rien. Et bien entendu, pour un vieux bonhomme comme moi qui a un peu mijoté là-dedans ces histoires, quand j'ai dit le Big Bang, j'ai dit, leur Big Bang, c'est que finalement, vous, la science, elle a tout changé. Elle a tout changé parce que le monde n'est plus le même. Comme vous dites, on avait un monde harmonieux, fermé, clos, où dont nous étions, d'une certaine façon, le centre, au moins pour le christianisme, disons. Mais les Grecs, on n'est pas le centre. Hein. C'est un monde où les hommes ont une place dans une espèce de hiérarchie, les bêtes, les hommes, les démons, les dieux. Mais c'est un monde fermé, clos, et qui bouge pas. Et bien entendu, le temps est un truc humain parce que les hommes sont mortels, les animaux sont mortels, les choses peuvent subir aussi des dégradations, mais le cosmos, et le mot qui le désigne, implique non seulement la totalité et l'unité de quelque chose, mais qu'il est beau. Cosmos, c'est un bijou, c'est une
ordonnée. C'est l'ordre aussi.
C'est l'ordre et c'est un joyau. C'est très bien, c'est superbe. C'est comme on passe à tout à fait autre chose, à cette chose dont on ne peut que se réjouir, qui fait qu'on n'est plus le centre du monde. Ça, c'est vraiment une révolution. Un, et deux, comme vous le dites, que ce monde, non seulement dont nous ne sommes plus le centre, mais aussi avec Pascal, l'infini du ciel qui l'effraie, et bien maintenant, c'est pas seulement l'infini du ciel, c'est l'infini des mondes, et le fait que rien n'est arrêté, que tout bouge, que tout change. Et ça, c'est des choses formidables. Qui prouve quoi, à mes yeux, à moi? Qui prouve que dans l'histoire de la science, dans l'histoire humaine, dans l'histoire de la pensée, il y a des changements complets. Notre type de rationalité, notre type d'intelligence n'est plus la même que celle des Grecs. Ce qui est vrai pour l'astronomie l'est pour les mathématiques, elle l'est pour la physique. Tous les principes qui nous paraissaient intangibles et qui constituaient la logique d'Aristote et la logique même de Kant, tout ça, la science contemporaine le flanque par terre. Et c'est très intéressant. Et en même temps qu'il y a ça, à savoir que affronter au monde, à travers ses sens, l'homme ne cesse pas, d'une certaine façon, de sortir de la limitation de ses sens et d'aller explorer le monde tel qu'il lui apparaît. Et en faisant cela, il change sa propre pensée. Parce qu'au fur et à mesure que la science progresse, que l'astronomie voit le monde autrement, ce que les hommes ont dans la tête aussi se modifie. Et en même temps qu'il y a ça, il y a le fait que peut-être il y a des limites. Par exemple, l'origine, qu'est-ce qu'il y a eu d'abord? Ben ça, c'est lorsque la science fait son boulot, à un moment donné, elle affronte d'une certaine façon ce que les hommes du 7e siècle avant Jésus-Christ, Hésiode, affrontaient aussi sous une forme complètement différente. Ça veut dire peut-être que entre ce qu'on appelle le mythe et ce qu'on appelle la raison, j'ai fait un bouquin qui était en gros du mythe à la raison, je n'écrirai plus ça. Il y a dans le mythe, dans les histoires d'Hésiode, de la rationalité, une certaine forme, un ordre intellectuel qui est établi et qui n'est pas n'importe quoi, c'est pas la pagaille, c'est un autre ordre que le nôtre, puis c'est un ordre. Il y a donc de la rationalité dans le mythe. Et il y a sans doute aussi, à chaque moment du développement de l'histoire, des sciences humaines et même des sciences physiques, aussi quelque chose qui ne relève pas de la rationalité telle que le progrès même la fera apparaître. Quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'imaginaire, du fait que voilà, l'indistinct, le chaos, la soupe, ça évoque dans notre tête ce que chaos évoquait, toutes sortes de choses. Il n'y a rien et pourtant, c'est quelque chose. Rien n'est sorti, mais tout doit être dedans. Et puis c'est obscur, la lumière va... Tout, ces espèces de notions, qu'on appelle mythiques, parce qu'elles vont dans toutes sortes de directions, et quelquefois des directions qui, rationnellement, sont contradictoires. Le mythe, il joue de ça. Il met en avant des notions, c'est comme dans un truc de chemin de fer. Il y a des rails qui vont tout droit, et puis alors, il y a des systèmes où on peut faire que le train qui vient d'en face va partir, non pas en droite ligne, mais il va être dévié, et le mythe, c'est ça. C'est de jouer sur des notions où les aiguillages sont compliqués et multiples, et où par conséquent, comme le disait mon bon vieux maître, on peut travailler du chapeau dessus. Mais la rationalité est aussi un travail du chapeau. C'est une façon d'essayer d'éclairer un problème.
Daniel Kunt.
Moi, je ressens tout à fait que dans la démarche scientifique, on bute toujours sur des présupposés dont on connaît pas l'origine, qui traversent tous nos modèles, toutes nos façons de penser. Et par exemple, qui ne figurent pas de manière explicite dans les équations, mais qui sont des hypothèses qui peut-être qui étaient déjà là dans les anciens mythes, comme par exemple la nécessité qu'il y a pour nos modèles scientifiques d'être parfaits, d'être simples. Si on a le choix entre deux modèles, on choisira toujours le plus simple, toujours le plus parfait entre guillemets. Alors là, qu'est-ce que ça signifie? C'est quelque chose que l'on impose à nos modèles. Donc pas simplement par souci d'économie pour aller plus vite, mais parce que ça nous satisfait.
Ça veut dire donc que les scientifiques aujourd'hui auraient aussi cette ambition de perfection ou ce désir de perfection.
Absolument, absolument. Ça ne nous quitte jamais. Et alors bon, ça c'est vrai, et c'est quelque chose d'ailleurs que il y a un livre magnifique qui fait la comparaison, qui compare le Timée et le Big Bang, qui est un livre de Luc Brisson, qui est tout à fait intéressant, où il fait la liste de toutes les hypothèses qui sont évoquées par Platon dans le Timée, pour ça où il passe du demiurge et il fait le parallèle avec toutes les hypothèses qui sont implicites dans le Big Bang. Pour que le Big Bang fonctionne, pour que nous soyons capables de dire quelque chose sur l'univers, même d'un point de vue scientifique, il faut des présupposés. Il faut supposer que les lois sont à peu près partout les mêmes dans l'univers, sinon on ne pourrait rien dire. Il faut supposer que nous sommes représentatifs de cet univers. Et ça aussi, nous n'en savons rien. Enfin, ce que nous savons aussi, c'est que nous sommes probablement une infime partie de l'univers dans sa totalité. Et pourtant, nous prétendons pouvoir dire quelque chose. Donc, vous voyez qu'il y a à tout moment, à toute étape, je crois, cette nécessité d'être là sur le fil du rasoir entre rationalité et irrationalité. Bon. Ce qui donne d'ailleurs aux scientifiques la modestie qu'il a parfois, et puis parfois, ça le conduit d'être extrêmement immodeste, c'est-à-dire de vouloir rêver à une théorie du tout.
Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire?
Et beaucoup de scientifiques, enfin pas tous, mais certains scientifiques, certains cosmologistes, auraient envie de même que le mythe donne une théorie du tout. Hein, finalement, oui. On explique pourquoi nous sommes là. Eh bien, d'avoir une théorie qui permette d'expliquer toutes les forces de la nature et d'expliquer dans sa totalité l'évolution de la matière. Et c'est ce qui a conduit au chaos jusqu'à nous aujourd'hui. Cette théorie du tout qui serait, par exemple, la possibilité d'unifier les quatre forces de la nature. Les quatre forces qui sont convoquées pour expliquer tout ce que l'on observe, qui est la gravitation, la force forte dans les noyaux d'atomes, dans le nucléaire, la force électromagnétique et la force faible qui permet d'expliquer la radioactivité. Bien, ces quatre forces peuvent être, peut-être, l'expression d'une seule force unique. Et ça ressemble à un demiurge scientifique. Et donc, c'est à l'origine des efforts de nos théoriciens pour élaborer une théorie qui serait la grande théorie du tout. The theory of everything, comme on entend dire parfois. Mais en même temps, donc les scientifiques oscillent entre ces deux positions, modestie, donc la science est une forme de scepticisme organisé, hein, et puis ce désir fou de vouloir tout expliquer. Vous avez un petit peu ces deux choses-là. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on ait découvert le Big Bang. Après tout, c'était pas évident du tout, puisqu'il y avait des théories concurrentes. Vous aviez des théories qui étaient tout à fait contraires à celles-là.
Par exemple, le Big Bang finit par s'imposer.
C'était la théorie d'un astrophysicien qui s'appelait Fred Hoyle, qui était la théorie de la création continue. Mais c'était un autre mythe, peut-être, d'ailleurs, le mythe de l'immuabilité du monde. Lui voulait que des atomes d'hydrogène soient en permanence créés afin que l'univers reste immuable. Et c'est vrai que, contrairement à la religion ou au savoir révélé, la science procède sur deux jambes. Elle a une théorie, mais elle a aussi l'expérience. Et dès que l'expérience infirme, on abandonne la théorie. C'est peut-être ce qui fait la force de la science, malgré, effectivement, ces tendances contradictoires. Et on a bien été obligé de se rendre compte, bien été obligé de se rendre à l'évidence que l'univers n'était pas, l'univers il y a 15 milliards d'années ne ressemblait pas à l'univers aujourd'hui. On s'est rendu compte de cette expansion de l'univers, l'évolution des galaxies. Bref, l'univers évolue constamment. Donc ces théories-là ont été abandonnées. Et on fait place à cette théorie du Big Bang. Et ce qui me frappe là aussi, c'est que les limites de notre connaissance sont à l'intérieur de la théorie elle-même. C'est-à-dire que c'est la théorie qui prédit, qui prévoit qu'on ne peut pas avancer au-delà d'une certaine limite temporelle. C'est-à-dire qu'au-delà de 10.32 secondes après le Big Bang, on ne peut plus rien dire.
Jean-Pierre Vernon.
Écoutez, moi, j'abonde dans ce sens. Je ne voudrais pas qu'en nous écoutant, en particulier à cause de moi, on se dise au fond tout ça c'est du pareil au même, et que un type raconte n'importe quoi sur l'astrologie ou sur ceci ou sur cela, et puis les physiciens en réalité c'est toujours la même chose. Donc c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose pour quelqu'un qui fait de l'anthropologie historique, qui regarde quelle a été l'histoire de l'homme, l'histoire de la pensée, l'histoire des techniques intellectuelles, l'apparition d'une science qui est à la fois repose sur des théories et des rationalités et sur de l'expérimentation avec un appareillage qui fait le joint, appareil qui est lui-même une théorie, mais qui est branché sur le réel, c'est pas du tout pareil. C'est pas pareil. En ce sens, je m'intéresse au mythe et je suis un rationaliste déclaré. Mais pas un rationaliste ancienne mode, un rationaliste qui sait que il y a que la raison, comme le monde, s'élabore, qu'elle se modifie. Il me semble qu'on pourrait dire peut-être que nous avons un cerveau, une tête, des sens, et que ça, c'est fait et ça implique une adaptation à un monde à une certaine échelle, à des phénomènes qui ont une dimension, une rapidité, une force, etc. Bon. Aussitôt que nous changeons de registre, c'est-à-dire que nous commençons à nous interroger à travers des appareillages sur ce qui est à une échelle infiniment plus réduite, l'infiniment petit, et que nous regardons aussi l'infiniment grand, notre façon sensorielle et mentale de nous adapter à l'univers et de le penser doit se modifier. Ça n'est plus vrai, c'est plus les mêmes principes. Depuis qu'il y a des hommes dans le monde, il y a le monde depuis très longtemps, des hommes depuis pas si longtemps, ils se sont adaptés à leur environnement. Comment ils s'adaptent? Par l'intermédiaire de ce qu'ils sont, de leur corps, de leurs organes, des sens, et leur tête, elle sert là, en quelque sorte, à condenser et à organiser tout ça. Mais si on était projeté dans un monde complètement différent de celui qui est nôtre, nos yeux ne verraient plus rien, nos oreilles n'entendraient plus rien, et tous nos systèmes de référence se casseraient la figure. Et avec lui, se casserait aussi la figure ce que dans notre tête s'est accumulé pour essayer de nous adapter intellectuellement à cet univers. Alors, c'est à la fois cette conception que j'ai, que je crois ont les savants modernes, les savants atomistes, ils savent bien que même le principe d'identité, il peut y avoir un objet qui est à la fois à une place et à une autre, ce qui est le comble de la folie pour la rationalité quotidienne et usuelle. Je peux pas croire ça, parce que si un bouquin est là, il n'est pas ailleurs. Mm-hmm. Mais sur le plan de l'infiniment petit, ça peut être autre chose.
Bien sûr, c'est autre chose.
Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut raconter n'importe quoi, et qu'il faut mettre dans le même sac la mythologie, la poésie, qui ont leur fonction, mais pas d'essayer de savoir ce qui est vrai. Ce vrai, il n'y a pas de vérité absolue, on approche sans cesse, on se modifie, mais quelle que soit la nécessité pour le savant, à un moment donné, d'aborder une espèce d'horizon qui a été aussi celui du mythe, ça peut-être, on peut pas penser autrement, c'est pas pareil, et on ne peut pas mettre dans le même sac l'effort systématique et expérimental de construction du vrai, dans aucun domaine, et les histoires à dormir debout qu'on raconte dans le domaine de la physique et dans le domaine des sciences humaines. Mmh. Parce que, si dans le domaine de la physique, ça peut n'avoir pas, enfin, type qui s'imagine qu'ils ont vu ou qu'ils ont dans cette secte dernière
où l'ont rencontré
où le type avait rencontré je ne sais quoi. Bon, c'est quand même scandaleux de voir que aujourd'hui on peut encore tenir ces propos et que des gens, que la presse se mobilise autour de choses de cet ordre-là. Je trouve ça scandaleux.
Je pense que dans la mesure où le mythe est un mode d'appréhension de la condition humaine, et que et que la science, finalement, regarde le monde qui nous entoure, je pense qu'il n'est pas étonnant qu'on retrouve des similitudes, et on en trouve constamment. On trouve aussi, il y a eu des physiciens qui se sont penchés là-dessus et qui ont cru d'ailleurs pouvoir déduire des choses, à mon avis, excessives. La comparaison entre le Tao et, vous savez, il y a un livre qui s'appelle Le Tao de la physique, où on fait la comparaison entre les textes du Tao et les équations de la mécanique quantique. Ah, oui. Bon. J'ai trouvé que c'était un syncrétisme, toujours trouvé que c'était un syncrétisme un peu facile. Et même si il est vrai que les scientifiques aujourd'hui trouvent dans la nature ce que les Grecs avaient trouvé, ce que les anciens Grecs ont trouvé, c'est-à-dire une harmonie, une beauté, elle est là. De toute façon, donc c'est pas étonnant qu'on la retrouve dans les équations scientifiques, et c'est pas étonnant que les scientifiques la recherchent. Par exemple, la symétrie. La notion de symétrie, c'est quelque chose qui frappe tout de suite. On voit bien qu'il y a des particules positives, des particules négatives. On voit bien qu'il y a une rotation dans un sens qui s'accompagne d'une rotation de l'autre côté. Il y a une force et une réaction. Donc ces notions de symétrie sont à l'œuvre dans notre description de l'univers à tout moment. Et lorsqu'il y a rupture de symétrie, il se passe toujours quelque chose d'intéressant. Ouais. D'ailleurs, ce sont ces séquences de rupture de symétrie qui permettent de raconter l'histoire de l'univers, d'un passage d'un état de l'univers à un autre par rupture de symétrie.
C'est ce qu'on appelle les transferts de phase, c'est ça?
Voilà, les changements de phase.
Qu'est-ce que c'est?
C'est un peu, vous savez, pour donner un exemple que tout le monde a un petit peu expérimenté, l'eau très froide, très pure, peut passer sous 0 degré, peut aller jusqu'à moins 4 degrés, sans geler, seulement parce qu'elle est pure. Donc elle est dans une certaine phase, qui est une phase liquide. Et vous ajoutez une toute petite impureté dedans, elle gèle instantanément, parce qu'elle était en surfusion, et le fait d'avoir ajouté cette petite impureté fait qu'elle passe du liquide au solide. Bon, ce phénomène, voilà un état de changement de phase qui permet de passer qualitativement d'un état à l'autre, parce que l'eau liquide et l'eau solide, enfin la glace, c'est quand même pas la même chose. Et bien il y a toute une série de séquences qui ont lieu très rapidement après le Big Bang, et qui permet de passer d'un état indistinct à un état, au contraire, où la matière se différencie et permet de faire apparaître les atomes, les noyaux d'atomes, puis peu à peu les galaxies et les étoiles. Et c'est ce que l'on appelle changement de phase. Et c'est extrêmement important de comprendre comment ça s'est passé, parce que c'est ce qui permet à un certain type de force de s'exprimer totalement. La force de la gravitation s'exprime à un moment donné, ensuite ce sont les forces électromagnétiques, et puis après ce sont d'autres forces.
Mais si je comprends bien, c'est ce aussi qui introduit une idée d'imperfection ou de non-symétrie ou de dans
voilà, non, il y a effectivement, il faut, là, en prenant l'exemple de l'eau, j'ai ajouté une petite impureté, et c'est vrai que tous ces changements de phase se font à la faveur d'une petite dissymétrie qui permet à un autre état qualitatif de la matière ou de la lumière de s'établir. Donc, mais il y a quand même symétrie. Il y a une petite rupture de symétrie qui permet le changement. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, physiciens, ou astrophysiciens, c'est essayer de percer le secret de ces symétries cachées. Parce que finalement, il y a 15 milliards d'années, tout était dans un état confondu, indistinct. Et c'est ce qui permettrait de comprendre, finalement, le véritable moteur ou la véritable source de tout ce que l'on observe ensuite.
Jean-Pierre Venant.
Écoutez, là, symétrie, dissymétrie, opposition, complémentarité, équilibre, toutes ces notions, c'est des notions que les Grecs ont appliquées. Une des caractéristiques de la pensée grecque, c'est que ces listes d'opposés, masculin, féminin, le blanc et le noir, le clair et l'obscur, et cette idée que on ne comprend le monde que si on établit des listes d'opposés qui forment des séries symétriques avec des balancements. Les Grecs, naturellement, le mieux, c'est tout ce qui est du côté du masculin, du lumineux, etc. Mais ça peut aussi basculer. Alors, on retrouve ça. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que là encore, la condition humaine est fondamentale. Pourquoi ? Parce que il y a une symétrie ou une dualité, et en même temps une dissymétrie, qui est le fait qu'il y a des hommes et des femmes, et que l'humanité est affrontée à ce problème. Il n'y a pas de Il n'y a pas de culture qui, à un moment donné, ne doit affronter ce problème. Pourquoi deux sexes au lieu d'un? Ça serait mieux s'il n'y en avait qu'un, du point de vue de l'esthétique, si je peux dire. Alors, pourquoi il n'y a pas seulement des hommes? Les Grecs se posent la question ouvertement.
Quelquefois. Et qu'est-ce qu'ils répondent?
Qu'est-ce qu'ils répondent? Ils répondent chez Hésiode, qui, par le mythe de Pandora, par le mythe de la création de la première femme. Et dans toutes les sculptures, il y a ce mythe. Pourquoi est-ce qu'il y a des femmes? Et ce problème, c'est un problème fondamental. Symétrie. Il faut un homme, il faut une femme. Mais en même temps, à l'intérieur de cette symétrie, dissymétrie scandaleuse pour l'intelligence et qui produit du mythe. Pourquoi? Parce que des deux sexes, il n'y en a qu'un qui enfante. Et qui enfante non seulement des femmes, mais aussi des hommes. Alors ça serait beaucoup plus simple que les hommes enfantent des hommes et les femmes des femmes, du point de vue de l'ordre. Ça serait parfait. Non, c'est pas comme ça. Alors à partir de là, le mythe élabore toute une série de constructions symboliques pour expliquer pourquoi c'est comme ça. Et c'est comme ça. Alors, le résultat de cette construction symbolique, c'est une description de la condition humaine. Oui, nous sommes mortels, nous devons travailler, nous devons manger du blé, nous devons manger la viande dans certaines conditions. Il y a une énorme construction à partir de là. Mais le point de départ est ce fait biologique incontestable qui dépasse l'homme, à savoir que pour que ça continue, il faut un mâle et une femelle.
Mais Jean-Pierre Vernon, on a l'impression, enfin on a le sentiment que les Grecs se débrouillent très bien justement dans ce monde qui est organisé un mélange de contraires. Vous parliez tout à l'heure de Eros et Iris, c'est-à-dire l'amour et la vengeance et la haine. Mais dans cet équilibre, dans cette organisation, cet ordre qui est fait à la fois de puissance d'accord et de puissance de conflit, ils se débrouillent très bien parce que la ligne de partage pour eux n'est jamais le bien et le mal, le positif et le négatif. Ils ont conscience de ces ambiguïtés.
Oui.
C'est peut-être là une leçon aussi qu'on pourrait prendre des Grecs.
Bien sûr. C'est certain. Quand je déclare qu'il faut que, il faudrait qu'on s'imbibe un peu plus de cette culture, si vous voulez, je prends l'histoire que j'aurai là de Pandora. L'histoire de Pandora, bon, c'est l'histoire d'Ève, d'une certaine façon aussi. Mais la grande différence, c'est que dans le récit grec de la création de la première femme, qui fait que l'homme va mener une vie malheureuse, elle est un kakon, un mâle. Mais c'est un kalon, kakon. C'est un mâle très beau. Il fait beaucoup de mal et on ne peut pas s'empêcher de l'aimer. On ne peut pas s'en passer et il nous fait souffrir. Il nous fait mourir et il nous fait naître en même temps. Toute l'ambiguïté. Dans cette histoire grecque, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de culpabilité.
Il n'y a pas de péché.
Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de transgression. On raconte ça, les hommes sont là, hein, ils regardent, ça se passe entre Prométhée et Zeus, ça se déroule, et ils ne bronchent pas. Et Pandora, elle est créée par Héphaïstos, une espèce de pantin, hein, avec de la glaise, on lui fait tout ce qu'on veut, elle a l'apparence d'une déesse, elle est quelque chose de divin, et elle est en même temps bestiale, mais, dans le malheur de l'homme, elle n'y est pour rien. Elle obéit exactement aux ordres de Zeus. Et cette fameuse jarre dont elle enlève le couvercle et où tous les maux se répandent, elle fait ça, c'est Zeus qui lui donne la jarre, et c'est Zeus qui lui dit, enlève le couvercle et remets-le après. Elle obéit. C'est-à-dire que l'homme est dans ce monde à la fois plein d'admiration pour les dieux, pour la femme, plein de valeurs, mais il n'est pas fautif. Sa faute, sa culpabilité, c'est d'exister. Et en même temps, cette existence, c'est ce qu'il y a de plus précieux à ses yeux. Moi, ça me plaît, ça.
Mmh. Jean-Pierre Vernon, l'un de vos maîtres, vous parliez tout à l'heure de Louis Gernet, mais il y a un autre maître qui était Meyerson,
oui.
Disait « Le monde est beau comme un dieu ».
Il disait ça?
Oui, vous l'avez repris.
Mais c'est pas lui qui disait ça.
C'est vous?
Oui.
Bah, j'ai lu que vous dites, effectivement, « Le monde est beau comme un dieu », comme disait mon maître Meyerson.
J'ai écrit ça?
Oui, il me semble bien. Mais enfin, en tout cas, qu'elle soit de lui ou de vous, le monde est beau comme un dieu, c'est magnifique.
Oui, non, c'est pas lui qui disait ça.
C'est vous.
Je le crois.
Bien.
Je ne crois pas en vérité, comme le disait, très souvent, je dis comme le disait mon maître Meyerson, parce que le meilleur de ce que j'ai pu dire et écrire, ça me vient de lui, de Gernet. Je ne suis qu'un petit chaînon dans cette chaîne de très grands esprits. Mais là, non.
Ça, vous la revendiquez. Alors, le monde est beau comme un dieu, c'est Jean-Pierre Vernon. Alors, on a fait un beau parcours avec Daniel Kunt et Jean-Paul Vernon. On est parti du ciel, on est arrivé à la femme. C'est un beau parcours. J'aimerais peut-être, dans le temps qui nous reste, que Daniel Kunt nous raconte ce qu'il a vu au bout de son télescope, puisque vous rentrez du Chili, hein, de cet observatoire.
Et au Chili, c'est un observatoire qui s'appelle l'ESO, qui est un observatoire européen. L'Europe existe dans certains domaines, en particulier la science. Et il y a là-bas 4 télescopes absolument extraordinaires, puisque le diamètre de leur miroir fait plus de 8 mètres, donc des miroirs de 8 mètres, qui nous permettent d'observer effectivement pratiquement jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout de l'univers, c'est-à-dire il y a à 15 milliards d'années-lumière, au moment où on perçoit ce qu'était l'univers dans son premier balbutiement, et on voit des choses, bien sûr, on le voit pas à l'œil nu, sont nos télescopes, les prolongements de nos sens, qui nous permettent de contempler, eh bien, des galaxies en formation, un univers complètement différent, et c'est ça qui est étonnant, et c'est pour ça que nous voulons, essayer de voir quel est finalement, est-ce qu'il y a un tout, est-ce qu'il y a une origine? Vous savez, les quatre forces fondamentales, les Grecs appelaient les quatre éléments, on essaye de les réunir en une globalité. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a introduit, il y a très peu de temps, une nouvelle matière, énergie, qu'on appelle la quintessence. C'est pas sans rappeler la quintessence et l'éther chez les Grecs, pour expliquer ce que l'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire que l'univers semble être en passe d'accélérer terriblement. Il y a une accélération que l'on contemple et que j'ai observé également lorsque j'étais au Chili le mois dernier. Ces galaxies, ces étoiles qui explosent, et je vous assure que c'est quand même une aventure extraordinaire.
On vous croit, on aimerait voir aussi. Mais quel a été votre, au cours de toute votre, enfin de votre travail, de votre recherche, quelle a été peut-être la découverte pour vous la plus importante que vous ayez faite ou que vous ayez vue, regardée, à laquelle vous avez participé?
Alors moi j'ai un de mes premiers travaux qui continue à pour moi être important, parce que c'était vraiment l'entrée en matière, ça a été la mesure de la quantité d'hélium qu'il y a dans l'univers. Et pour cela, j'ai observé des galaxies, des toutes petites galaxies, des galaxies naines, qui me permettaient d'accéder à cette mesure. Je l'ai fait à Palomar, justement, parce que vous en avez parlé tout à l'heure. C'était ma première rencontre vraiment sérieuse avec la grande astronomie, voir ce télescope de 5 mètres de diamètre. Et donc, j'ai observé que dans ces galaxies, il y a de la matière, de l'hélium, qui ne peut pas avoir été fabriqué autour de nous par les étoiles que l'on voit, mais dont l'origine, dont la confection remonte aux quelques minutes qui ont précédé, qui ont suivi le Big Bang. Donc là, vraiment, c'était pour moi fabuleux de pouvoir dire quelque chose qui se rapporte à ces tout premiers instants, parce que 3 minutes, au regard de 15 milliards d'années, c'est vraiment très petit.
Jean-Pierre Vernon, et pour vous, quel a été le moment peut-être le plus enthousiasmant de votre travail?
J'en sais rien. Peut-être ce que j'ai fait, beaucoup de choses différentes, mais une des choses que j'ai aimé, c'est ce que j'ai fait avec Marcel Détienne, qui s'appelle Les Ruses de l'intelligence, sur les formes de l'intelligence rusée. Enfin, aussi ce type de rationalité qui est le contraire de la rationalité. Ulysse.
Oui.
Ulysse,
Hermès. C'est votre héros, c'est votre grec préféré.
Bien, non? Mais je dirais, il y a le ciel des astronomes, et moi j'étais là ces jours derniers avec la chance et le bonheur d'un temps incroyablement beau, et tous les soirs je regardais le ciel, parce que juste devant ma chambre il y avait un ciel très pur de montagne qui a des 800 mètres, Orion.